Sophie, Agée, Zacharie et Malachie. Alors, je vous propose de regarder un autre. On avait regardé partiellement, on ne regarde pas tout, hein, on ne rentre pas dans les détails de tout, mais on survole, c'est un tout petit survol. Le prophète Jonas. Hein, on va regarder le prophète Jonas. Combien de chapitres dans Jonas ? 4 chapitres dans Jonas, très bien. Alors, Jonas, la rédaction de ce livre se situe à peu près au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et la particularité du livre de Jonas, c'est un petit prophète, mais c'est qu'il ne contient pas vraiment de prophétie, hein, comme vous pouvez trouver dans Malachie ou dans Joël, qu'on a vu avec des oracles, etc. Une prophétie qu'on pourrait trouver, c'est celle dans laquelle Jonas crie contre Ninive, mais elle ne se réalise pas dans le sens où les Ninivites se repentent. Hein. Et donc, si on fait attention, le style, c'est plus un style narratif, on pourrait dire. C'est une histoire qui est racontée. Et quelqu'un a dit qu'on pourrait presque trouver ce livre dans les livres historiques. Mais quand même, Jonas est un prophète. Hein. Même si c'est vrai, il y a une bonne partie qui est narrative dans ce texte. Alors, on ne sait pas beaucoup de choses de Jonas. Est-ce que son nom est cité ailleurs dans la Bible, dans le Nouveau Testament, oui, et dans l'Ancien Testament. On ne sait pas. Oui, il est cité en 2 Rois. Il est cité en 2 Rois, chapitre 14 et au verset 25. Il a exercé son ministère de prophète, on pourrait dire, à l'époque de Jéroboam II. Hein, de Jéroboam II. Il était probablement contemporain aussi de Amos, hein, le prophète Amos. Donc on trouve il est question de lui en 2 Rois, chapitre 14, verset 25, où il avait prédit que c'était les limites, hein, du pays d'Israël seraient retrouvées, tout ce qui avait été perdu, qui avait été gagné du temps de David et Salomon, qui avait été perdu. Il avait prophétisé cela. Donc regardez 2 Rois, chapitre 14. 2 Rois chapitre 14 et au verset 25. 2 Rois 14 et au verset 25. Alors je vais lire cela. Donc il est question ici de Jéroboam, au verset 24. C'est un roi d'Israël qui a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, hein, verset 24, qu'il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole de l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcé par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittaï de Gath, et faire. Okay, donc Jonas avait prophétisé cela et ça s'est réalisé. Ce rétablissement des limites s'est réalisé sous Jéroboam II. Mais la première chose qui vient à l'esprit quand on parle de Jonas, c'est quoi ? Poisson. Hein? Le poisson. Pour les Antillais, le poisson c'est important. Hein? La baleine, parfois les gens parlent de baleine, n'est-ce pas ? Cachalot, je ne sais pas quoi, hein, mais gros poisson. Hein. C'est ce qui reste de Jonas. Mais est-ce que c'est le cœur de l'histoire de Jonas, ça, du livre de Jonas ? Pas vraiment. Pas vraiment. Alors, ce qu'on va faire ce soir, on va se diviser en 4 petits groupes. Hein, 4 petits groupes. Et chaque groupe va lire un chapitre. Vous allez lire, hein, le chapitre, c'est pas long. Hein. Même le livre en entier, ça se lit très très vite, hein. Très très vite. Vous lisez un chapitre et ensuite vous allez. La consigne, c'est la suivante, c'est que vous allez relever tout ce qui caractérise Dieu dans ce livre de manière explicite ou implicite, hein. C'est-à-dire de manière directe ou indirecte. On va faire un groupe ici. Toutes ces personnes-là, ça va être le chapitre 1. Au fond, le chapitre 2. Ici, le chapitre 3. Et puis Jean-Pierre et Jérémie, vous serez là-bas avec ce petit groupe-là, les trois qui sont à côté du radiateur, pour le chapitre 4. D'accord? On peut faire ça. On lit tout de suite. On prend, vous n'êtes pas obligé de lire, de discuter. Vous pouvez lire chacun, puis vous notez, et ensuite on va récolter un peu ce que vous avez vu qui concerne Dieu. Tout ce que vous voyez qui concerne Dieu, vous soulignez. Si vous avez un stabilo, vous soulignez. Si vous avez un crayon, un papier, un petit carnet de notes, ce qui est encore mieux, eh bien vous écrivez. On va prendre chapitre par chapitre et on va énumérer ce que vous avez trouvé. Juste énumérer, hein, ce qu'on apprend de Dieu dans ces chapitres. Ok. On fait avec le chapitre 1. On se remet, on fait avec le chapitre 1, parce qu'il faut qu'on avance quand même. Hein. Chapitre 1. Ensuite, chapitre 2, chapitre 3 et chapitre 4. D'accord? Donc chapitre 1. Peu importe, ce que vous avez noté, si c'est déjà dit, après c'est pas grave, on va pas le redire. Peut-être on peut prendre, voilà. Hein. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Ce qui est dit, ce qu'on peut, qu'on voit, qui caractérise Dieu, hein, ce que Dieu fait, ce que Dieu, etc. Hein, comme ça. Oui, d'accord. Dieu parle. Okay, on pourrait dire comme ça. Oui. Allez-y, dites. Oui. Il donne un ordre. Dieu donne des ordres. Très bien, oui. Dieu provoque une tempête. Très bien. Oui, il voit tout ce qui. Voilà, il voit. Dieu voit ce qui se passe. Oui, d'accord. Ça, très bien. Dieu est le créateur du ciel et de la terre. C'est ce qu'on voit. D'autres choses encore sur ce premier chapitre? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Très bien, on va s'arrêter là. Dieu écoute la prière, oui. Ok. Chapitre 2. Vous pas besoin d'aller plus loin. Chapitre 2. Qu'est-ce que vous avez relevé? Tout ce que vous voyez concernant Dieu. Dieu exauce les prières. D'accord. Il écoute les prières, oui, il exauce, il écoute. Dieu parle aux animaux, oui, c'est vrai. Il délivre, oui, c'est bien. Dites fort un peu, que des fois, je n'entends pas forcément. Il donne le salut. Le salut vient de l'Éternel, très bien. D'autres choses? C'était tout? Ok, très bien. Chapitre 3, ici. Oui. 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 Ouais. Oui. Voilà, c'est ça. Très bien, pas mal. D'autres choses encore? Non? Ok. Le chapitre 4, qu'est-ce que vous avez, vous pouvez dire? Oui. Oui, il est, tu as dit maître des éléments de la nature, d'accord. Voilà, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Un Dieu qui pardonne. Oui. Souverain sur la vie et la mort, oui. Il exerce la justice. J'ai pas entendu. Vas-y. Il répond, d'accord. Il écoute, il répond. L'amour. L'amour de Dieu, très bien. Oui, sensible à ses besoins, il prend soin. Oui. Il est. Il éprouve Jonas pour faire comprendre une vérité. Là, tu es déjà dans, en plus dans dans l'interprétation. Mais c'est vrai, mais on est... Ouais. Il peut donner et ôter aussi ensuite, oui. Il fait des reproches, d'accord. Oui. Il est le péché, d'accord. Il fait venir un ver. Il commande un ver de terre. Enfin, pas c'est un ver de terre, mais un ver, quoi. Donc, un ver destructeur. Il fait pousser le ricin. Il fait souffler le vent. Donc, alors, si on rassemble tout ça, si on rassemble tout ça, c'est quand même pas mal de choses, hein. Il y a certainement des choses qu'on a sautées ici. Si on résume, on a dit que on voit dans ce livre que Dieu ordonne. Il ordonne à Jonas. Il ordonne même deux fois, hein, au chapitre 1 et au chapitre 3. Et puis on voit qu'il produit beaucoup de choses. La tempête, c'est lui qui l'a fait. Dans le chapitre 2, hein, Jonas prie, il dit, tes vagues, verset 4, toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. C'est-à-dire que la tempête, il prend ça comme étant la tempête de Dieu, hein, et ce sont les vagues de Dieu et les flots de Dieu qui sont passés sur lui. Donc il tient Dieu comme celui qui ordonne toutes ces choses ici. Et puis vous avez dit, hein, tout ce qu'il donne, il ordonne aux poissons, aux animaux, aux plantes, au vent, à la nature, à la création tout entière. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire que le livre de Jonas démontre? Il démontre que Dieu contrôle toutes choses. Contrôle les hommes, contrôle les animaux, il contrôle toute sa création. On avait appris ça, hein? Dieu, il contrôle toute sa création, il préserve ses créatures, il dirige toutes leurs actions. C'est ce qu'il fait ici. Alors, comment est-ce qu'on pourrait appeler cela? La souveraineté de Dieu sur toute chose. La souveraineté de Dieu sur toute chose. Mais, aussi, vous avez dit des choses qui parlent d'un autre attribut de Dieu, dans tout ce que vous avez cité ici. Hein, vous avez dit que Dieu, il fait grâce, il est miséricordieux, etc. Il pardonne, il écoute. Comment est-ce qu'on pourrait, quel mot on pourrait mettre pour cela? Oui, la compassion, ou un mot qui commence avec M, on l'a dit tout à l'heure, la miséricorde de Dieu. Hein. La miséricorde de Dieu envers qui? Envers les pécheurs, lesquels, ici, dans ce livre? Les Ninivites, Jonas, les marins, aussi. Donc, on veut dire, et les Ninivites, les marins, etc., tout ça, bon, on pourrait dire, c'est qui, les marins, je pense aussi, hein, c'est qui ces gens-là, par rapport à Israël? C'est des ennemis et aussi des, religieusement parlant, c'est des païens. C'est des païens, donc ce sont les nations. Hein. Donc Dieu est miséricordieux à la fois envers Israël, mais aussi envers les païens. Et donc finalement, quand on regarde bien, si, et tout ce que raconte ce livre, c'est vraiment la souveraineté de Dieu envers les hommes. La souveraineté, pardon, et la miséricorde de Dieu sur toute chose, sa miséricorde envers les hommes. Donc, en même temps que ce livre, bien sûr, c'est pas que l'histoire de Jonas, c'est l'histoire de la miséricorde de Dieu, mais c'est aussi l'histoire de Jonas, le prophète de Dieu, envers qui Dieu exerce aussi cette miséricorde. Et qu'est-ce qu'on apprend sur Jonas? Ben, on apprend sur lui sa désobéissance, sa mauvaise, on pourrait dire, conception du dessein de Dieu, et puis finalement, son obéissance, mais quand même avec un cœur qui nous semble-t-il, hein, demeure un peu rebelle. Donc, si on voulait donner un titre à ce livre, un titre, moi, je l'ai mis comme ça, un prophète face à la miséricorde et à la souveraineté de Dieu. Le livre de Jonas raconte l'histoire d'un prophète face à la miséricorde et à la souveraineté de Dieu. Alors, on va se cantonner seulement au chapitre 1, aujourd'hui très rapidement, hein, on va pas rentrer dans tous les détails, mais si on n'a pas terminé, on va s'arrêter, c'est pas grave, mais on va considérer le chapitre 1 et après une autre fois le chapitre 2, etc. Dans cette première partie, dans ce premier chapitre, c'est l'histoire, on pourrait dire, c'est l'histoire de la fuite de Jonas. Donc on pourrait intituler ça le prophète qui tente de fuir Dieu. Hein, dans cette première étude, prophète qui tente de fuir Dieu. Je vais lire le chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittaï, en ces mots: Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il s'éleva sur la mer une grande tempête et le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur et ils implorèrent chacun leur Dieu. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre: Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Et ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? Il leur répondit: Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent: Pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent: Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui vous attire, qui attire sur vous cette grande tempête. Les hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent: Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Et ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent, pardon, des vœux. Voilà pour le chapitre 1. Donc, dans ce chapitre, évidemment, on voit l'ordre de Dieu et puis la désobéissance du prophète Jonas. Les versets 1 à 3, la parole de l'Éternel est adressée à Jonas. Il lui dit: Va vers Ninive. Et Jonas se lève, mais il va dans une autre direction. Donc l'ordre, Jonas ne suit pas l'ordre que Dieu lui avait donné. Ninive était une ville assez célèbre, hein, qui était connue pour ça. Méchanceté et sa cruauté. Si vous lisez Nahum, chapitre 1, vous allez trouver des choses concernant Ninive. Là, c'est vraiment un oracle, c'est vraiment très prophétique, hein, où Dieu parle de jugement, de destruction. C'est pas va, prêche pour qu'il se repente, c'était vraiment annonce ce qui va lui arriver. Donc, on n'aura pas le temps de le lire, mais vous pouvez le lire à la maison. Nahum, chapitre 1, c'est un oracle sur Ninive. Le livre de Nahum, et puis au chapitre 3, verset 1, on trouve que c'est une ville sanguinaire, etc. Vous pouvez voir ça donc dans le prophète Nahum. Alors Jonas, il se lève, il part à Tarsis. Alors Tarsis, Ninive, c'est une ville qui se situe, on disait que se situait en Irak, hein, on pourrait dire en Irak maintenant, sur le bord du Tigre. Et puis Tarsis. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites, on n'est pas sûr de bien pouvoir bien la situer, mais il semblerait que ce soit beaucoup plus à l'ouest, hein, du côté du sud de l'Espagne, un peu presque. Hein. Donc c'est quand même, alors si vous prenez une carte, vous regardez Ninive, Israël, Jaffo, c'est Jaffo qu'il dit ici, hein, où est-ce qu'il est allé à Jaffo, hein, sur le bord de la mer ici. Ninive, c'est vers l'est, et Jonas est parti vers l'ouest. Il a pris le bateau et puis il est parti vers l'ouest. Vous pouvez rechercher ça sur les cartes à la maison, si vous avez le temps. Alors Dieu lui confie une mission, cette prophète de l'Éternel qui avait déjà été utilisée par Dieu, puisqu'on le voit dans Deux Rois, etc. Et il fuit. Alors à votre avis, pourquoi fuit-il? Vous avez peut-être plusieurs réponses. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'il fuit Dieu? Il n'est pas d'accord avec Dieu, d'accord? Oui, les Ninivites ne sont pas dignes d'être sauvés. Peut-être, hein? D'autres choses qui auraient pu l'empêcher? Oui. Voilà, c'est ça. Il savait que Dieu est un Dieu de miséricorde. Et s'il n'a pas envie que Dieu sauve les Ninivites, peut-être ce serait ça aussi, c'est vrai. Et puis on pourrait penser aussi que, eh bien, voilà, un prophète, il aime bien que ce qu'il dit va arriver. Et vous voyez comment il prêche à Ninive? Il dit encore 40 jours et Dieu va détruire, c'est ça sa prédication. Et si vous regardez au chapitre 3, c'est ce qu'il prêche. Il dit encore 40 jours, je crois, verset 4. Il dit, il criait, il disait encore 40 jours et Ninive est détruite. Et si Dieu fait miséricorde, Ninive ne sera pas détruite. Donc sa prédication, hein, si vous voulez, ne sera pas réalisée dans ce sens-là. Mais lui-même donne la réponse, hein, vous l'avez dit. Au chapitre 4, il dit à Dieu, regardez au chapitre 4, il dit au chapitre 1, il dit, Ah Éternel, verset 1, ça a déplu à Jonas que Dieu se repente. Chapitre 3, verset 10, et chapitre 4, il implore l'Éternel et dit, C'est là ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays, c'est ce que je voulais prévenir. En fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et qui te repent du mal ici. Donc Jonas fuit parce que, comme on l'a dit, on a l'impression qu'il ne voulait pas que Dieu fasse grâce à ce peuple. Alors, le texte dit qu'il fuit loin de la face de Dieu. Est-ce que Jonas pensait qu'il pouvait fuir loin de la face de Dieu, qu'on peut fuir loin de la face de Dieu? On peut penser que non, hein, parce qu'il connaissait déjà probablement le psaume 139 qui dit que on ne peut pas fuir, hein, psaume 139, versets 7 à 12, on ne peut pas fuir loin de la face de l'Éternel. Mais certainement, pour lui, Israël, c'était le lieu de la présence de Dieu. Et donc, sortir de là, c'était quelque part se mettre un petit peu loin de tout ce qui pourrait lui rappeler Dieu. On pourrait penser ainsi, hein. C'est comme quand quelqu'un s'éloigne de Dieu en s'éloignant de l'Église, hein. Parfois, on s'éloigne des gens que l'on connaît, des autres chrétiens. C'est une manière de fuir Dieu, tout en sachant que Dieu est omniscient et qu'on ne peut pas, en fait, fuir sa présence. Mais des fois, on fuit une assemblée pour fuir la communion des autres chrétiens. Et puis se retirer dans son petit coin tout seul, c'est une manière quelque part de fuir Dieu. Et désobéir, hein, on pourrait dire désobéir, c'est toujours fuir la présence de Dieu. Désobéir, c'est toujours fuir la présence de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut considérer dans cette désobéissance de Jonas? Il est dit qu'il descendit à Jaffo. Il trouva un navire qui allait à Tarsis, il paya le prix du transport, il s'embarque pour aller avec des passagers à Tarsis. Où est-ce que Jonas veut aller? C'est une question simple. Où est-ce qu'il veut aller? À Tarsis. Est-ce qu'il trouve les moyens d'aller à Tarsis? Oui. Est-ce qu'il a les moyens d'aller à Tarsis? Oui. Est-ce qu'il part vers Tarsis? Oui. Hein? C'est intéressant de considérer ça. Et Jonas, il ne trouve aucune difficulté à désobéir. Aucune difficulté à désobéir. Il a tous les moyens qu'il veut pour mettre en place sa désobéissance. Et même en tant qu'enfant de Dieu, D'accord? On voit qu'il est facile de désobéir. Il ne faut pas croire que parce qu'on est un enfant de Dieu, parce qu'on est un prophète, Dieu va mettre quelque chose qui va barrer tout de suite le chemin. Dieu le laisse, hein? Et même, il arrive, il trouve un bateau. Il aurait pu arriver au bord de la mer et ne pas trouver de bateau. Et puis être obligé de chercher un autre endroit pour aller. Et puis ne pas trouver moyen encore pour y aller. Hein? Comme on dit souvent, on aurait pu trouver un Dieu qui lui ferme les portes de ce qu'il veut faire. Mais ce n'est pas du tout le cas. Et donc, Jonas ici, c'est la preuve qu'un enfant de Dieu peut se révolter, désobéir et trouver beaucoup de facilité à désobéir sans que Dieu intervienne le moins du monde. Et on voit même qu'il a les moyens, il paie le prix de sa désobéissance. Parfois, les gens, on utilise des moyens pour payer le prix de notre désobéissance. C'est comme, on pourrait dire que, voilà, pour l'instant, il paye le prix de la désobéissance, mais plus tard, il paye le prix du voyage, pardon, hein, mais plus tard, il paiera le prix de la désobéissance, quand Dieu va vraiment intervenir. Donc, Dieu donne un ordre, le prophète désobéit, mais Dieu ne l'empêche pas de désobéir. Ça, c'est une chose que l'on voit ici. Plus tard, qu'est-ce qui se passe? On voit que Dieu envoie une tempête. Verset 4, il est dit, Jonas part, il cherche à fuir loin de la face de l'Éternel, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et c'est intéressant de voir ce petit mais ici, hein. Ça montre que dans tout ça, Dieu est en train d'agir. Jonas manifeste sa désobéissance, mais Dieu n'a pas dit ici, bon, je laisse tomber, tant pis pour lui, qu'il fasse ce qu'il veut, des prophètes, il y en a plein, je vais me tourner vers un autre prophète et il accomplira ma volonté. Pas du tout, pas du tout. Cette situation, Dieu est intéressé dans cette situation, on pourrait dire, hein. Le texte est présenté comme Jonas fait quelque chose, mais Dieu n'a pas dit comme on dit, son dernier mot. Mais Dieu est à l'œuvre, Dieu intervient, Dieu agit au travers même de cette situation. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il envoie une tempête. Hein, l'Éternel envoie une tempête. C'est pas la météo, hein, c'est pas faute à la météo. Le temps a tourné, ça a changé. Parfois on dit ça, mais oui, c'est peut-être la météo a changé. Mais qui c'est qui a fait changer la météo? C'est Dieu. C'est Dieu qui fait changer la météo. Dieu provoque une tempête et il envoie cette tempête pour interpeller Jonas, hein, pour interpeller Jonas, même s'il l'a laissé aller dans sa désobéissance. Et c'est à ce moment-là que les choses commencent à devenir de plus en plus poignantes, on pourrait dire. C'est là qu'on assiste à une confession, d'une certaine manière, de Jonas. Qu'est-ce qu'il confesse, Jonas, dans le chapitre 1, quand la tempête arrive et que les mariniers le sollicitent? Bon, lui, il descend, il dort dans le fond du navire, hein. C'est une manière de fuir encore. Certainement, il est conscient que c'est à cause de lui que les choses arrivent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va dormir du sommeil de la désobéissance. Et parfois, on dort, on ferme les yeux pour ne rien voir, ne rien savoir. Je ne vais rien avoir à faire avec ce que Dieu m'a, avec Ninive, je vais dormir, même si la situation est grave. Ça peut nous arriver aussi. Mais qu'est-ce qu'il dit, Jonas, ici? Quelle est sa confession? Une très belle confession d'ailleurs, au verset 8, 9. Voilà, 9, il dit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Donc on est en plein dans une tempête qui secoue, il y a des mariniers qui sont effrayés par cela, des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui invoquent leur Dieu. Il se passe rien, il lève, réveille Jonas, dit à Jonas, toi, tu vas invoquer ton Dieu. Et puis, il lui dit, bon, qu'il fait rien, il tire au sort, on ne va pas revenir sur le fait de tirer au sort, il tire au sort, ça se tombe sur lui, et il avoue, oui, je suis, comme s'il disait, je suis un chrétien, je connais Dieu, et le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et je vois ici Dieu qui se révèle à pas à Jonas d'une manière particulière. À Jonas, il sait que c'est la tempête, c'est Dieu qui l'a provoqué, il le sait. Mais qui se révèle aux mariniers à travers celui qui voulait fuir pour ne pas aller évangéliser des païens. Hein? Et Dieu l'utilise au sein même de la difficulté pour qu'il fasse ce premier témoignage déjà qui va amener ces hommes à considérer le Dieu d'Israël, hein, le Dieu créateur de toutes choses. Donc il y a la confession de Dieu comme créateur, on voit ça ici au chapitre 1 et au verset 9. Et puis il y a aussi la confession de sa désobéissance. Hein. Il dit, c'est moi qui vous attire cette grande tempête, qui a sa confession, la confession que sa désobéissance cause le malheur des autres. En passant, il faut toujours noter que nous ne sommes pas les seuls atteints par notre désobéissance. Quand nous désobéissons, cette désobéissance a aussi un impact sur d'autres, même sur des non-chrétiens. Ça peut avoir un impact. Et donc, la désobéissance n'est jamais quelque chose qui nous concerne nous seulement. C'est mon affaire avec Dieu. Parfois, les gens disent ça, hein, c'est mon affaire avec Dieu, tu me laisses tranquille, etc. Non, 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 jamais. Hein. Ça touche aussi une église quand un enfant de Dieu désobéit. Ça touche aussi même, on le voit ici, des personnes qui peuvent être à l'extérieur. Donc, Jonas, qu'est-ce qu'il fait quand il est découvert ici? Ces hommes lui demandent, que devons-nous te faire pour que la mer se calme envers nous? Et qu'est-ce que Jonas dit ici? C'est quoi sa réponse? Il dit, jetez-moi à la mer. Un homme à la mer, hein? Comme on dit, jetez-moi dans la mer. Franchement, si vous êtes conscient que vous désobéissez à Dieu, Dieu envoie une tempête. Il y a un danger de mort pour les personnes. Vous confessez que c'est Dieu qui est à l'origine de tout cela, que c'est vous qui êtes la cause de cette catastrophe. Qu'est-ce que vous faites en tant qu'enfant de Dieu? Hein? Qu'est-ce qu'on aurait pu attendre de la part de Jonas ici? Qui se repent, qui disent quoi? Qui prient? C'est moi qui suis la cause de ça, mais je vais prier Dieu, je suis en fuite, j'aurais pas dû entreprendre cela. Je vous demande pardon et je vais prier Dieu pour qu'il étende sa main, qu'il arrête ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Jetez-moi à l'eau. C'est un suicide. C'est vraiment une. Et il s'attend à quoi quand il dit jetez-moi à l'eau? Il s'attend à mourir. Il dit tuez-moi, en fait. C'est ce qu'il est en train de dire. En fait, dans le fond, c'est comme s'il disait mieux vaut mourir que d'aller à Ninive prêcher la parole à ces gens-là, à ces païens-là. C'est un peu ça qu'il dit ici, hein. Et il ne s'attend pas il dit pas jetez-moi à l'eau parce qu'il se dit bon, je vais nager, je vais rejoindre le rivage dans la tempête, je vais retourner en sens inverse. C'est pas du tout ça. Il dit tuez-moi. D'ailleurs, plus tard, on le voit, hein, quand Dieu a fait grâce, il dit au chapitre 4, je crois qu'il dit ça, hein. Il dit voilà, je préfère mourir, hein. Je préfère mourir. Donc, Jonas, non seulement ne se repent pas, mais il préfère même mourir plutôt que de se tourner vers Dieu. Il en est ainsi aussi parfois pour des enfants de Dieu. Hein. Au lieu de se repentir, on va davantage, davantage, davantage vers le mal. On préfère qu'on nous retranche, qu'on parfois on dit, moi je démissionne, j'abandonne, radiez-moi, hein, mais plutôt que de se repentir et de revenir. Ou parfois on dit, j'assume. Hein. On dit, tu ne réagis pas comme le Seigneur te demande d'agir, de faire les choses comme il faudrait le faire, et on dit simplement, j'assume. Je sais que je ne fais pas la volonté de Dieu, je sais que ce n'est pas bien ce que je fais, mais j'assume. C'est comme si Jonas disait, j'assume, jetez-moi à l'eau. Hein? Advienne que pourra. C'est un peu son attitude là, ici. Mais notons, ça c'est son attitude, l'attitude de Jonas, mais notons l'effet de tout ce qu'il a dit sur les mariniers, versets 14 et 16, très rapidement. Qu'est-ce qu'ils font? Verset 14, les mariniers, ils ont prié Dieu, d'accord, mais ils prient l'Éternel, d'accord, ils demandent qu'il ne soit pas tenu responsable de ce qu'ils vont faire. Et puis ils ajoutent, car toi, ô Éternel, tu fais ce que tu veux. Ils reconnaissent quoi ici? la souveraineté de Dieu. Il ne connaissait même pas ce Dieu-là, et maintenant il prie, il reconnaît sa souveraineté. Et puis, au verset 16, un peu plus bas, qu'est-ce qu'il fait ? Ils offrent un sacrifice à l'Éternel et ils font des vœux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils demandent dans leurs vœux, mais peut-être qu'ils disent, je peux supposer qu'ils disent, si tu nous ramènes vivants de cette épreuve, nous nous consacrerons à toi ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Ils font peut-être des vœux de cet ordre-là. On a l'impression ici qu'il y a une conversion de ces hommes qui reconnaissent qui est Dieu. Donc on voit à travers cette situation où l'enfant de Dieu même est rebelle, Dieu utilise cela pour amener d'autres à lui. Donc ce n'est pas une raison pour être rebelle, bien sûr, mais on voit que Dieu utilise cela pour amener d'autres hommes à lui. Donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait, juste je vais terminer avec ça, qu'est-ce qu'on pourrait tirer comme quelques applications et puis en même temps sujet de prière pour nous dans la lecture de ce premier chapitre. Une chose que je note, c'est que la volonté de Dieu, c'est toujours de se faire connaître au peuple, aux différents peuples. La volonté de Dieu, c'est de se faire connaître au peuple. Dieu veut se faire connaître, premièrement, à qui ? À votre avis ? Oui, pour prendre n'importe quel ordre. Moi, je pense un peu à Jonas, parce que Jonas a une méconnaissance de Dieu. Qu'est-ce qu'il pense de Dieu ? Il pense que Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Point à la ligne. Et que faire grâce aux autres, à ceux qui sont des nations, voilà. Il sait bien que Dieu est un Dieu de grâce, d'accord ? Mais il ne veut pas que Dieu fasse grâce aux nations. Et Dieu veut, lui, se faire connaître à Jonas. Il lui dit, toi, tu as compassion d'un ricin, et moi, je ne devrais pas avoir compassion des hommes. Et il est en train de se révéler vraiment à Jonas, ici, dans cette situation. Mais il se révèle aussi aux mariniers, et il veut se révéler aussi aux Ninivites. Et ce que nous apprend ce livre, c'est que Dieu est un Dieu qui veut se révéler aux hommes. C'est pour ça qu'il nous a donné sa parole. Il veut se révéler aux hommes. Dans toutes les situations qu'il crée. En Romains chapitre 9, verset 17, l'apôtre Paul parle de Pharaon et il dit ceci. Il dit, car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié sur toute la terre. » Donc on peut louer Dieu, le remercier de ce qu'il est désiré se révéler à nous laisser sa parole, se révéler à nous de manière spéciale en la personne de Jésus-Christ. S'il ne l'avait pas fait, nous serions toujours dans nos péchés. Mais Dieu est un Dieu qui aime et qui veut se révéler. Une autre chose que l'on peut voir encore, c'est que annoncer l'évangile aux pécheurs, c'est l'ordre de Dieu à tous ses enfants. Annoncer l'évangile à ceux qui ne connaissent pas l'évangile, c'est l'ordre que Dieu donne à tous ses enfants. Dieu dit à Jonas, va et prêche. Okay? Est-ce qu'il nous dit la même chose ? Oui. Où est-ce qu'on peut trouver ça dans la Bible ? Matthieu chapitre 28. La même chose. Allez et faites des disciples de toutes les nations. C'est ce qu'il dit à Jonas. Ninive, c'est une nation païenne. D'accord ? Allez et faites des disciples de toutes les nations. Matthieu 28, hein. Donc nous devons aussi prier que Dieu nous donne ce désir. Parfois nous pouvons penser, ah cette personne-là, mais non, ces gens-là ils sont trop loin de Dieu, c'est pas la peine qu'on leur annonce la grâce, l'évangile, etc. Ils vont jamais rien comprendre, ils sont trop loin. Ce sont des gens qui sont enfouis dans le péché. C'est presque comme si on disait, la grâce de Dieu c'est pas pour eux. Hein? Il faut demander à Dieu un cœur, un fardeau pour pouvoir porter l'évangile à ceux même qu'il nous permet de croiser et qui à nos yeux sont loin ou qui à nos yeux ne méritent pas. Nous ne méritons rien, mais des fois nous pouvons penser qu'il y a une personne qui ne mérite pas un peu comme Jonas. Nous pouvons quand même être animés de la même pensée que Jonas. Que Dieu enlève cela de nos cœurs, on peut prier cela et qu'il nous donne un fardeau pour tous ceux qu'il met autour de nous. Que l'on puisse penser aux gens en termes d'âmes qui sont perdues et qu'on entende dans notre cœur ce que Dieu dit à Jonas, va et annonce, et puis ou ce que Jésus dit aux disciples et à nous-mêmes aussi, allez et annoncez la nouvelle à tous ceux qui sont perdus. Troisième vérité et puis sujet aussi, c'est que la grande épreuve à laquelle on est confronté face à la volonté de Dieu, c'est toujours l'épreuve de l'obéissance. Toujours l'épreuve de l'obéissance. Chaque fois qu'on entend la loi de Dieu, notre problème, c'est le problème, on va obéir ou on ne va pas obéir à la loi de Dieu. Et donc on peut prier Dieu de nous donner des cœurs obéissants à sa parole, quel que soit le commandement qu'il nous donne, que nous soyons prêts à obéir, à ne pas trouver des circonstances atténuantes. On cherche toujours des circonstances atténuantes. Ou à ne pas dire, il y a la volonté, comment quelqu'un m'a dit ça une fois, il y a la volonté idéale de Dieu, et puis il y a quelque part une volonté pratique, c'est-à-dire ça c'est idéalement ce que Dieu veut. Mais bon, je ne peux pas accomplir ça, donc je vais, Dieu sait que les circonstances font que je ne peux pas faire ça, donc je vais faire quelque chose qui est un peu contraire ici à la volonté de Dieu, mais parce que je ne peux pas accomplir la volonté idéale de Dieu. Non, la Bible dit, tu as donné tes lois pour qu'on les observe, comment ? Le psaume, avec soin. Tu as donné tes lois pour qu'on les observe avec soin. Le psaume 119, je ne m'appelle plus quelle référence, c'est un. D'accord ? Donc ça, c'est important. Le « avec soin » est important. On ne peut pas trouver des circonstances atténuantes. Et puis dernièrement, je voudrais dire cela, il est très facile de marcher dans la désobéissance et de trouver des circonstances qui favorisent la désobéissance. Okay. C'est très facile de marcher dans la désobéissance et de trouver en plus des circonstances qui favorisent. Comme Jonas, il a voulu aller là-bas en désobéissant, et bien il a trouvé tous les moyens d'aller là-bas. On trouve toujours les moyens de désobéir quand on a envie de désobéir. Je connais des gens qui, parfois c'était dans une église, et puis ils ont quitté l'église parce qu'ils voulaient, je ne sais pas si c'était se marier ou quelque chose comme ça, mais et puis une personne avec un inconverti, le pasteur a dit, etc. Non, alors elle a quitté l'église, cette personne, pour aller dans une autre, où elle était un peu certaine que là-bas, on ne serait pas trop contre cela. Et elle a fini par trouver. Hein. D'accord ? Quand on cherche à désobéir, on trouve le chemin de la désobéissance. Et donc, il ne faut donc pas croire que parce que les choses vont bien, Dieu approuve. Hein. Dieu, parfois, il ne va pas intervenir toujours de manière spectaculaire pour arrêter. Le psaume 119, 10 dit « Je te cherche de tout mon cœur ». Et il prie Dieu, il dit ceci, « Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. » Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Parce que Dieu pourrait nous laisser égarer à cause de notre désobéissance. Nous laisser errer, comme il a laissé Jonas aller. Parfois, il laisse aller loin, il rattrape dans sa grâce, mais il pourrait nous laisser aller. On pourrait goûter à des choses qui ne sont pas bonnes, simplement parce qu'il abandonne le pécheur, le désobéissant dans sa voix. Donc nous devons même prier ce que prie le psalmiste ici. Je te cherche de tout mon cœur et ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Donc c'est une prière que nous pouvons faire aussi. Alors, je m'arrête là pour ce soir. Que le Seigneur nous aide à mettre ces choses en pratique et puis à prier tous ces sujets que nous avons énumérés ici pour nous-mêmes, pour notre croissance et pour la croissance de notre assemblée.